Cette agression, elle est pour des raisons économiques, pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au prix d'une épuration ethnique qui ne dit pas son nom.
Félix Tshisekedi, le président de RDC, qu'on réentendra tout au long de cet entretien un peu plus longuement. Bonsoir Thierry Vircoulon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe. Pour l'IFRI, Claude Guibal est là aussi. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Reporter évidemment à la rédaction internationale chez nous. Vous avez passé plusieurs jours à RDC. Vous avez obtenu une interview de Félix Tshisekedi en même temps d'ailleurs que Le Monde et que le Wall Street Journal. On l'écoutera à intervalles réguliers et puis surtout, il va falloir la décrypter. C'est aussi sur vous que je compte, Thierry Vircoulon. Est-ce qu'on peut d'abord nous aider tout simplement à planter le décor, nous remettre un peu la carte en tête, nous aider surtout à démêler le vrai du faux? Le contentieux, les raisons de la colère, en l'occurrence de Félix Tshisekedi, qu'on va entendre, c'est une province qui est à l'est de la RDC. C'est le Nord Kivu qui est riche en minerais. La province, elle est aux prises avec une rébellion d'un groupe qui s'appelle M23, le mouvement du 23 mars, et qui s'étend même jusqu'aux portes de Goma. Le M23 est soutenu par le Rwanda, en hommes et en armes. Le Rwanda qui cherche quoi dans ce soutien à la rébellion, Thierry Vircoulon ?
Il y a qui cherche à occuper une partie très riche de cette province, en l'occurrence les territoires du Rutshuru et du Masisi, où il y a des minerais importants, il y a de l'or, mais il y a surtout ce qu'on appelle les 3T, c'est-à-dire le coltan, la cassitérite et la wolframite.
Et ça c'est bon pour nos téléphones portables, notamment pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est pour ça que c'est aussi précieux, parce que ça sert vraiment, à ça. Est-ce qu'on parle juste d'une rébellion tournée contre la RDC ? On parle de beaucoup plus que ça quand même, on parle de massacre, c'est en tout cas les mots des Nations Unies, on parle d'1,5 million de personnes qui ont été déplacées, on parle de choses qui sont extrêmement préoccupantes.
Oui, on est maintenant, je crois, à 7 millions de déplacés en RDC,
tout,
mais qui ne sont pas dus uniquement au conflit du M23, parce que la scène est beaucoup plus grande que ça. Il y a des groupes armés en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, mais là, il y a une focalisation sur le M23 qui a ressurgi depuis 2022, mais quand on dit qu'il y a 7 millions de déplacés, on parle de ces trois provinces.
Et il paraît qu'il y a même une centaine de groupes armés dans un pays comme la RDC, c'est ça qui est aussi très très difficile à comprendre et à calculer. Hein.
Oui, alors, mais là encore, on parle que de trois provinces sur l'ensemble du pays, et celle qui est la plus citée actuellement, c'est évidemment le Nord Kivu, et plus particulièrement le sud du Nord Kivu, avec le M23 qui, comme vous le disiez, est en train d'enserrer Goma.
On dit, on va entendre d'ailleurs Félix Tshisekedi le dire très concrètement, pour lui le Rwanda cherche à piller les ressources de la RDC. Est-ce que c'est aussi simple que ça, aussi binaire que ça ?
Oui, c'est aussi simple que ça, puisque en fait, lorsqu'on regarde les ressources d'exportation des minerais du Rwanda depuis le début de l'attaque du M22, c'est-à-dire 2022, elles ne cessent d'augmenter. L'année dernière, le Rwanda a fait 1,1 milliard d'exports de minerais. Cette année, il a l'objectif d'en faire 1,5 milliard.
Mais du minerai qui n'est pas le sien, donc en gros.
Voilà, ces résultats n'ont pas grand-chose à voir avec sa production.
Ouais, c'est-à-dire, au fond, l'extraction, qui la contrôle dans cette partie-là?
C'est justement le M23 dans la zone qu'il a pris, Masisi et Rutshuru, ce qui permet de faire passer les minerais de l'autre côté en toute impunité.
Claude Guibal, vous l'avez rencontré, donc Félix Tshisekedi, et je le disais, il faut préciser d'abord que c'est la RDC qui vous invite à venir, hein, c'est important de le dire, avec un message de la part de Félix Tshisekedi, c'est celui-ci, c'est le Rwanda pille et fait du nettoyage ethnique.
Voilà. Oui, vous avez raison Fabienne, c'est pas anodin, hein, si c'est la semaine précisément où le Rwanda commémore les 30 ans du génocide des Tutsis du Rwanda que Félix Tshisekedi a choisi de parler, donc dans cette interview, on l'a dit, hein, réalisée aussi avec Le Monde et le Wall Street Journal. C'est une façon, hein, effectivement, pour la RDC, de contrer ces commémorations en attirant l'attention sur l'action du Rwanda sur le territoire congolais.
Cette agression, elle est pour des raisons économiques, pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au prix d'une épuration ethnique qui ne dit pas son nom. Parce qu'à cause des massacres et des violences qu'exerce le Rwanda, des populations entières se déplacent. Et donc, quand vous voyez cet accord sur la transformation de matières critiques signé entre l'Union européenne et le Rwanda, alors que tout le monde sait que le sous-sol rwandais ne regorge d'aucune de ces matières, vous comprendrez qu'il y a quelque part le financement ou l'encouragement à la guerre, à l'agression que fait le Rwanda.
Oui, il faut préciser que cet accord dont parle Félix Tshisekedi, donc il a été signé en février donc entre l'Union européenne et le Rwanda, et il cherche à aider le Rwanda à développer son secteur minier, on vient d'en parler, et il porte essentiellement sur le tantale et le niobium, qui sont donc les extraits du coltan, et qui sont essentiels à la fabrication donc des smartphones, des ordinateurs, et c'est cet accord qui vraiment a déclenché la fureur de Kinshasa.
Et alors il le dit vraiment, il le dit même sans guillemets, c'est nous qu'il vise, les Européens, parce que les ressources, nous en avons besoin.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il nous accuse de duplicité. Et pendant cet entretien, il a d'ailleurs fait le rapprochement avec la guerre en Ukraine, la Russie, en rappelant que ce conflit avait fait l'objet de centaines de sanctions, déjà, alors que depuis 30 ans, le conflit au Congo, qui a déjà fait plusieurs millions de morts, eh bien, lui n'a généré aucune sanction. Et c'est ce qu'il réclame. Félix Tshisekedi, il réclame des sanctions ou à minima des menaces de sanctions contre Paul Kagame, donc le président rwandais.
Je vais être très dur, c'est de la complicité. Dans les accusations qui sont proférées contre Kagame de piller les ressources de la RDC, Kagame l'a dit lui-même. Il a dit qu'il n'était pas seul dans les pillages du Congo. Lui, il se chargeait de les voler et les autres de les acheter et de les transformer. Les produits qu'ils volent sont ensuite transformés dans ces pays-là. Donc ces pays font du recel. Dans ces pays-là, il n'y a aucune condamnation de ce qu'il fait.
Et ce qu'il dit, Félix Tshisekedi, c'est que là, il est question de deux poids, deux mesures, en fait.
Thierry Vercoulon, il y a du vrai dans cette déclaration. Oui, nous avons besoin des ressources minières de la RDC. Donc oui, il y a ce mot complicité, qui est vraiment pas un mot anodin. Est-ce que vous aussi, vous pouvez l'analyser comme ça? Sommes-nous, au fond, complices de ce qui est en train de se passer dans cette province-là?
Non, je pense que c'est, comme d'habitude, le narratif congolais qui est un narratif qui consiste à de boucs émissaires, toujours, et qui, malheureusement, n'est pas actualisé avec la structure du commerce des minerais. Parce qu'en fait, ça fait déjà longtemps que les 3T partent en Extrême-Orient, parce que l'essentiel des raffineurs sont en Chine. Et donc, quand on regarde les destinataires, les destinations des minerais rwandais qui sont exportés, c'est pour les 3T la Chine et la Thaïlande, essentiellement. Et pour l'or, qui représentait 500 millions quand même de dollars il y a quelques années, exportés par le Rwanda, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, les destinataires, les voilà. Les Européens, les Américains, c'est le marché final, mais pas seulement, puisque je crois qu'il y a beaucoup de Chinois qui utilisent des smartphones, d'après ce que je sais. Et donc, il faudrait quand même qu'il actualise son narratif par rapport à la structure du commerce international.
Et on se dit aussi, au fond, on parlait tout à l'heure des centaines de groupes qui existent aussi, de groupes armés, qu'il y a un certain intérêt à se maintenir dans ce chaos-là, non, de la part de l'ERDC, de la part de Félix Tshisekedi qu'on vient d'entendre.
Il est clair que le M23 n'est pas le seul groupe armé en RDC qui vit sur les minerais.
Il y a une chose que je voudrais ajouter, Monsieur Vercoulon, parce que ça nous amènera à la suite de cette interview. Est-ce que dans ce chaos-là, la RDC a la tentation d'ajouter ce qui est un épouvantail pour les Européens, un épouvantail pour les Français, c'est-à-dire la Russie qui serait là en juge de paix? Est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce que c'est déjà une réalité sur le terrain en RDC? Qu'est-ce que ça dit quand il nous parle de Russie, Tshisekedi?
Je crois que c'était surtout pour faire un parallèle, en effet, avec l'Ukraine et le fait que là, les Européens ont réagi. Mais j'aurais tendance à dire que l'Ukraine, c'est évidemment une guerre fondamentale pour les Européens qui ont un intérêt direct, et non pas un intérêt direct dans la guerre dans les Grands Lacs. Donc c'est plutôt, c'est ça un peu le parallèle. Mais par contre, il est faux aussi de dire qu'il n'y a pas eu de sanctions, puisque on a vu que Washington, qui est quand même le principal allié du Rwanda, a pris un certain nombre de mesures de rétorsion contre le Rwanda. Et que a publiquement aussi reconnu qu'il y a un pillage là qui est indéniable.
Alors, à chacun sa narrative, effectivement, Thierry Vercoulon, comme vous le dites. Claude, la question russe, vous l'avez posée à Tshisekedi, on est très curieux de cette réponse.
Oui, parce qu'elle se pose, même au sein du pouvoir congolais qui pousse à un rapprochement avec la Russie.
D'abord, je voudrais poser la question, est-ce que c'est son droit ou pas d'être présente sur le continent africain, la Russie? C'est son droit. Si elle respecte les lois de la RDC, il y aura des relations. D'ailleurs, il y en a déjà. Mais ça ne nous empêche pas d'être lucides. Ici, j'aimerais préciser que nous sommes parmi les rares nations africaines à avoir condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. J'ai toujours dit que les Européens ou l'Europe, c'est le partenaire naturel de l'Afrique. D'abord par sa situation géographique et par la longue histoire qu'il y a eu entre les peuples d'Europe et d'Afrique. Et que malheureusement, l'Europe ne joue pas vraiment ce rôle-là pour le moment. et qui laisse la place à d'autres, je pense à la Chine, la Russie et même les États-Unis aussi, qui prennent plus de place en Afrique que les Européens.
Et puis il y a autre chose et qui m'a scotché, Claude, en écoutant votre interview. On reproche à la RDC, à Félix Tshisekedi, de laisser les milices d'autodéfense utiliser notamment les enfants et les enfants soldats. Et écoutez sa réponse qui est quand même assez dingue.
Ce sont des gens qui ont vu, pour certains, leurs parents se faire violer devant leurs yeux, se faire massacrer, décapiter devant tout le monde. Mettez-vous à leur place. C'est pas eux qu'il faut juger. Il faut juger les agresseurs, ceux qui les poussent à entrer dans cet état de fonctionnement. Donc s'il vous plaît, arrêtez vos regards occidentaux qui commencent à agacer les Africains d'ailleurs, parce que vous avez toujours des approches que vous faites à partir de votre raisonnement sans vous mettre dans la peau des Africains.
Je suis curieuse de votre réaction à ce genre de propos, Thierry Vercoulon. Laissez-nous, vous ne nous comprenez pas de toute façon, nous les Européens. C'est ce qu'il nous dit entre les lignes, Tshisekedi.
Oui, enfin c'est un peu des propos de comptoir. La réalité, c'est que le pouvoir congolais continue à faire la même guerre qu'il faisait. Il a toujours la même stratégie guerrière, c'est-à-dire que comme son armée est sous-performante parce qu'elle est profondément corrompue, il recourt toujours aux milices, il recourt toujours à des mercenaires étrangers et il recourt toujours à des armées alliées africaines. Mmh. Et c'est la coalition qu'il a montée actuellement dans l'Est. Le problème, c'est que cette coalition, pour le moment, ne marche pas.
Ces propos précédents sur la Russie, est-ce que on a un peu le sentiment que ça sonne comme arrêtez-moi ou je fais un malheur, c'est une manière de nous parler sur ce ton-là?
Oui, bien sûr, c'est la surenchère habituelle et évidemment dans le contexte international actuel, on comprend la pourquoi il fait cette surenchère, mais là aussi je pense que c'est un discours qui se trompe de destinataire, qui n'a pas compris comment évoluer le commerce des minerais international depuis 15 ans et qui a 15 ans de retard.
Et ben comme ça, la conclusion est bien nette. Thierry Vercoulon, merci beaucoup de votre passage chez nous. Claude Guibal, merci également pour cette interview et tous vos reportages qui sont à retrouver sur franceinter.fr. Merci mille fois.